partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, nous continuons le cycle argentin avec un personnage qui s'appelle Fernando Sapsay et j'intitule cette émission « Un Sacha Guitry argentin, Fernando Sapsay ». J'ai rendez-vous ce soir avec un personnage hors du commun dans un des restaurants parmi les plus branchés de Buenos Aires. Vedette et présentateur préféré de la télévision argentine dîne comme s'il jouait une pièce de théâtre. L'atmosphère, clin d'œil à Arletty et Jouvet, est impressionnante de latinité. Au menu, sourire, décolleté plongeant, yeux pétillants et champagne bien sûr. L'homme qui est installé en face de moi attire d'emblée la sympathie. Volubile, affable, plein d'esprit, il connaît un monde fou, aussi bien en France qu'en Amérique du Sud. Visiblement, dans cette salle pleine de complices, il se sent dans son élément. Bien qu'âgé de 76 ans, Fernando Sapsay a des réactions enthousiastes qui forcent mon admiration. Son visage régulier s'éclaire fréquemment au fil de la conversation. Il devient soudain joyeux, tandis que sa moustache blanche frémissante équilibre à merveille le mouvement de ses beaux cheveux blancs, juste un peu dégarnis au milieu de la tête. La voix chaude de cet homme entreprenant est assurée, caressante, puissante à l'occasion. J'ai devant moi un être insaisissable, tant il a de facettes, de talents, de ressorts aussi. Il connaît le prix de l'amitié. Il me fait penser à ce personnage bondissant, apparaissant dans certains récits de Spirou, ce fameux marsupilami qui enchanta une partie de mon adolescence. Il n'est guère facile de résumer en quelques lignes l'histoire de ce francophile de la première heure, de cet universitaire renommé à qui le gouvernement français a décerné la Légion d'honneur. Membre de l'Académie historique argentine et de plusieurs autres académies, notamment correspondant de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres qui est présidée par le professeur Raymond Daudel, il a été vice-président du comité argentin pour le bicentenaire de la Révolution française 1989 et président du comité exécutif argentin pour la commémoration du centenaire de la naissance du général de Gaulle 1990. Professeur à l'Université de Buenos Aires, il occupe également la chaire de l'Union européenne à l'Université de Belgrano. J'ai devant moi un travailleur de la mer. Je veux dire par là infatigable. Pour reprendre une image chère à Victor Hugo, ce monsieur délicieux, plein d'humour, cultivé, a sans cesse favorisé le dialogue aussi bien entre l'Argentine et la France qu'entre l'Amérique du Sud et le reste du monde. Nul doute que cet homme mérite l'estime de ses pairs, car il a réalisé beaucoup de choses. Entre deux bouchées, il n'hésite pas à me confier que sa seconde patrie, c'est la France. Tout au long de sa carrière qui n'est pas finie, il a rencontré de nombreuses personnalités politiques et intellectuelles de la scène parisienne, de Valéry Giscard d'Estaing à Jacques Chirac, en passant par Raymond Aron. Une pensée juste, glisse-t-il. Pierre Mendès France, qu'il a adoré, sans oublier un certain Jean-François Poncé. Ce marsupilami argentin, entre guillemets, visiblement amusé d'avoir réalisé tant de choses sérieuses, cet amoureux fou de la langue française me souffle soudain que sa mère lui chantait enfant « Frère Jacques, frère Jacques » et aussi sur le pont d'Avignon. C'est elle qui lui a appris la recette de la sauce béchamel. L'œil de plus en plus pétillant, Fernando Sapsay avoue aimer les femmes. Très gentleman, il précise que les deux beautés qu'il a successivement épousées apprécient elles aussi infiniment la langue française. L'art de vivre, tradition de notre cher pays, a décidément imprégné, plus qu'on ne le croit, une bonne partie de la planète. Pour cet homme de qualité, que Musil, l'écrivain autrichien, aurait apprécié, la France apparaît comme un phare, un pays clé dans l'évolution historique de l'humanité, un pays attirant qui a énormément apporté à l'Argentine. Aussi, sans la moindre hésitation, Fernando Sapsay n'hésite-t-il pas à rendre hommage au pays des droits de l'homme, qui ne les a pas toujours respectés, au pays où les idées et les échanges ont un prix, un poids. Il se félicite que la République des Lettres existe quelque part et se réjouit que la France ait été plus d'une fois un exemple pour l'humanité. hélas, il reconnaît non sans tristesse que la Seconde Guerre mondiale a été cruelle, dévastatrice, démoralisante, même si heureusement les forces du bien l'ont emportée. Mon interlocuteur garde à présent dans la mémoire l'extraordinaire fièvre qui s'est emparée de Buenos Aires le jour de la libération de Paris. Il se souvient, comme si c'était hier, de la foule d'Argentins qui ont exprimé leur joie et chanté leur amour pour la patrie de Jeanne d'Arc. En août 1944, plus d'un million de personnes ont défilé de la Casa Rosa, le palais présidentiel, à la place de France. Ce fut un jour inouï, grandiose, mémorable. Paris libéré, l'humanité entière reprenait espoir. Ce jour-là, comme jamais, les Argentins prouvèrent l'attachement qu'ils avaient pour le pays à l'origine des droits de l'homme. Fernando Sapsay n'a pas oublié non plus la visite du général de Gaulle à Buenos Aires en 1963, année où il a été reçu avec les égards dus à son rang par le président Arturo Illia. Pour mon hôte, de Gaulle est le plus grand politicien du XXe siècle. Il n'avait, me confie-t-il avec un sourire admiratif, qu'une seule maîtresse, la France. Il s'insurge que pour des raisons exclusivement politiques, on ait donné le prix Nobel de littérature à Winston Churchill. De Gaulle le méritait bien plus. Il suffit de relire ses écrits et ceux du chef d'État anglais pour en être persuadé. Le général a apprécié le rôle positif que l'Amérique latine avait joué en faveur de la France libre. L'Uruguay et le Pérou furent les deux premiers États à le reconnaître. Jacques Soustel, homme politique et historien de talent, avait su défendre avec acharnement la cause gaulliste. Des intellectuels français ainsi que d'éminents écrivains latino-américains l'avaient aidé dans sa lourde tâche. Par exemple, l'action d'un Georges Bernanos au Brésil fut magnifique. À ses côtés, un Miguel Ángel Asturias ne ménagea pas sa peine pour être l'un des avocats les plus passionnés de la cause gaulliste. De Gaulle savait à quel point la culture française, poétique, juridique, politique et scientifique, imprégnait une partie de l'intelligentsia latino-américaine. De nombreux témoins privilégiés n'ont pas oublié l'enthousiasme soulevé par ses voyages dans cette région du monde. Partout où il passait, il défendait avec conviction le pluralisme et le nécessaire échange entre les peuples. Envoyé de la France, dans cette région du monde si francophile, malgré la mainmise américaine, il fut accueilli comme l'héritier du siècle des Lumières et de l'enseignement positiviste d'Auguste Comte. Sa visite au Mexique se transforma en triomphe avec le fameux « Marchamos la mano en la mano »,« Nous marchons la main dans la main ». Tous humbles et puissants, éprouvèrent un sentiment de grandeur en recevant le général de Gaulle, mais hélas, l'intendance ne suivit guère les promesses des discours, son désir de créer une troisième force latine sous l'influence de Paris n'était qu'un rêve, la France, même si elle n'avait plus vraiment les moyens de sa politique, n'en continuait pas moins d'exprimer un monde de valeurs, d'idéaux et de fraternité qui plaisait au caractère passionné des latino-américains. Fernando Sapsay, laissant de côté la politique, se met à présent à me parler de littérature, un premier nom. Et ce n'est pas un pur hasard, jaillit de sa bouche celui de Paul Claudel. Extraordinaire écrivain et ambassadeur qui, déclare-t-il, a été un francophone avant tout le monde, il a raison. La vie de Claudel est un véritable roman. Il a su voyager, écouter, sentir, encourager, traduire à merveille le pluralisme de certaines sensibilités de ce monde. Du Brésil au Japon, il n'a eu de cesse d'offrir des témoignages, des récits, des poèmes, des pièces de théâtre inoubliables. Décidément, la mémoire de Fernando Sapsay est infatigable. Son esprit s'infiltre partout, explore mille et une avenues. Cet homme intuitif, créatif, tourné vers le bien, vers le beau, s'affirme comme une sorte de Sacha Guitry de la scène littéraire argentine. Amoureux fou de théâtre, mon interlocuteur l'est. N'a-t-il pas connu la majorité des artistes qui comptaient dans l'après-guerre ? Il se souvient parfaitement de Jean Villard et de Gérard Philippe, venus jouer l'aiglon à Buenos Aires. Il se souvient de leur présence si différente devant moi. Il rend hommage à Jean Villard, formidable homme d'action dont l'énergie était extrêmement concentrée, surtout lorsqu'il jouait l'annonce faite à Marie. Fernando Sapsay, en critique avisée, considère que le meilleur auteur de théâtre français dans la première moitié du siècle s'appelle Jean Giraudoux. qui fut, je le signale au passage, l'ami de Paul Morand de l'Académie française. Une telle mémoire, une telle puissance d'empathie, une telle francophilie sont stupéfiantes. Par moments, j'ai l'impression que cet homme de 76 ans en a 25. Cet universitaire qui a été aussi avocat spécialisé dans le droit constitutionnel sait défendre avec fougue les causes qui lui tiennent à cœur. Je ne suis pas étonné qu'il soit l'ami de Georges Védel et d'Alain Touraine. Autre action digne de lui, il continue d'être un excellent éditeur, et ce depuis 1952, époque où régnait Perron. Et la fête de l'esprit continue lorsqu'il parle à merveille, tel un chat gourmand, de ses nombreux autres amis sud-américains, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, auteur, ne l'oublions pas, fascinant de l'arc et la lyre, en espagnol on dit « el arco y la lira », que j'ai rencontré il y a très longtemps, en 1971, dans sa maison du quartier de San Ángel, à Mexico. Nicolas Guillén, Ernesto Sabato, Silvina Ocampo, sœur de la fameuse Victoria Ocampo, dont je parlerai lors de prochaines émissions, et d'Adolfo Dioy Casares, qui sera d'après lui l'un des prochains prix Nobel. Il faut savoir qu'Adolfo Dioy Casares, prix au passage Roger Caillois 1995 pour l'ensemble de son œuvre, a été longtemps le complice de l'étonnant Jorge Luis Borges, disparu en 1986. Romancier expressionniste argentin, Adolfo Dioy Casares adore se moquer gentiment de lui-même. Sa langue laconique sculpte des textes courts qui ressemblent parfois à des synopsis. Écrivain ironique, hésitant entre le burlesque et le grotesque, il raconte la manière dont l'illusion sait se servir du réel pour mieux se cacher. Ses textes les plus connus s'intitulent « L'invention de Morel »,« Un champion fragile »,« Plan d'évasion », »,« Journal de la guerre aux cochons »,« Dormir au soleil »,« Le héros des femmes » ou « Une poupée russe ». Dans « L'invention de Morel », premier livre que je viens de citer, il avait posé la question de la séduction du virtuel et de la disparition bien avant Jean Baudrillard. Pour écrire, l'auteur attend d'être habité par une histoire. Dans son œuvre, on peut retrouver certaines touches chères à Paul Morand, notamment lorsqu'il cultive le passage de l'ordinaire au fantastique. Dans « Un champion fragile », autre livre de l'auteur, il est amusant de deviner qu'Adolfo Dioy Casares part d'une scène primitive, puis comme François Truffaut, glisse vers le thème obsessionnel de l'homme qui aimait les femmes. Son héros, un chauffeur de taxi, sillonne la capitale fédérale en scrutant le visage des femmes de 20 ans, autant avouer que cocasserie et larmes sont au rendez-vous. C'est à ce romancier, fort original, que Jorge Luis Borges avait confié un jour, je cite, « Sur les trottoirs, aujourd'hui, je me sens devenir transparent ». Fin de la citation. En vérité, derrière l'humour et la bravade des meilleurs écrivains argentins, l'on sent parfois monter le bouillonnement du chagrin rentré au pays de la libre pampa, l'on connaît aussi le prix de la pudeur. Toujours intarissable, Fernando Sapsé continue de me raconter que dans les années 1950, il n'y avait pas de maison d'édition spécialisée dans le théâtre. Aussi décida-t-il d'en fonder une en 1953. Il choisit de l'appeler Losange, nom qui se comprenait à la fois en français et en espagnol. La maison d'édition avait pour logotype un arlequin qui touche une mandoline. Dans une de ses collections, celle consacrée au théâtre universel, il s'empressa d'accueillir les œuvres de Georges Neveu, de Federico García Lorca, auteur, comme on le sait, espagnol, tout Giraudoux bien sûr, avec en tête de liste Siegfried et le Limousin, et la guerre de Troie n'aura pas lieu. D'un autre auteur, de Van Kleist, il choisit de publier « Le prince de Hombourg », de Brecht, « Mère Courage et ses enfants ». En général, remarque-t-il, lorsque la dictature rôde ou sévit, le théâtre plaît, car il exprime une liberté qui manque à la société à l'époque du président Frondizi, 1958-1962, qui fut un modernisateur de l'Argentine. Fernando Sapsay structure les éditions universitaires en créant les presses universitaires E2BA. Dans la foulée, plus rien ne l'arrête. Il profite du vent de libéralisation qui souffle pour fonder la maison d'édition Nueva Vision, Nouvelle Vision, afin d'accueillir des livres dans le domaine de l'architecture, notamment sur Le Corbusier et le Bauhaus, donc allemand comme on le sait. En 1970, il décide de fusionner les deux maisons d'édition, ce qui ne l'empêche pas de garder vivante la collection de théâtre universel. Au cours de ses nombreuses années de découverte, il est fier d'avoir publié « Le monde cassé » de Gabriel Marcel, ainsi que des œuvres de Jean Cocteau, de Samuel Beckett et de Monterland. Cet homme ouvert sur les cultures du monde se plaît à rappeler qu'il a également choisi de défendre les couleurs de l'italien Pirandello, du russe Tchekhov, des américains Eugene O'Neill et Maxwell Anderson, deux grands auteurs de théâtre. En plus d'exprimer à nouveau son admiration pour Jean Giraudoux, mon interlocuteur insiste sur la qualité du style d'un Français aujourd'hui méconnu, Henri Lenormand, auteur apprécié pour deux de ses œuvres, d'abord « L'Erraté », ensuite « Le Simoun », œuvre écrite durant la période 1910-1930. Il a même consacré à ce personnage hors série un essai. Aussi m'incite-t-il chaudement à m'intéresser à cet artiste. D'une énergie inépuisable, Fernando Sapsay a lui-même rédigé une vingtaine d'ouvrages, dont quatre volumes dédiés à l'Argentine du XVIe siècle à aujourd'hui. L'un de ses derniers livres est « L'Estado Liberal Democratico », je crois que je n'ai pas besoin de traduire, c'est-à-dire « L'État libéral démocratique », fait autorité dans le domaine politique. Je retrouve là la signature du spécialiste de droit constitutionnel. Au détour d'une phrase, ce personnage opiniâtre, combatif, reconnaît avoir tout perdu en 1983. Des pertes exclusivement financières, précise-t-il, l'air faussement détaché. À l'époque, il habitait un appartement de 300 mètres carrés, situé en face de l'ambassade de France, francophilie oblige. Pourquoi a-t-il connu de tels déboires financiers ? Ma question une fois lâchée, son regard meurtri m'indique qu'il ne me répondra pas. En vérité, j'ai compris qu'il s'agissait d'une affaire de femme, probablement le passage obligé de la première à la deuxième dame. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, je n'ose lui conseiller de revoir l'œuvre et les films de Sacha Guitry, un expert en la matière. À bien y penser, il la connaît certainement. Bigre, son divorce a dû lui coûter une fortune. Quelqu'un m'a dit que sa première épouse était un peintre qui a décoré entre autres le hall majestueux de l'hôtel Copacabana à Rio de Janeiro. Habitué aux effets de scène, d'un revers de la main, Fernando Sapsay chasse ses mauvais souvenirs de sa conscience et enchaîne sur le fait qu'en 1994, l'ambassadeur en poste en Argentine, Renaud Vignal, avait créé un conseil de mécénat français composé de 10 intellectuels argentins et de 10 français. Il se félicite qu'un tel rapprochement ait eu lieu entre les deux pays, alors que la nuit s'épaissit. L'histoire de Buenos Aires revit dans la bouche de Fernando Sapsay, personnage inspiré, magicien, magnifique, de générosité culturelle. Au fil des minutes intenses, d'autres noms d'amis jaillissent, celui de Jacques Sopelsa, diplomate français, celui de Francisco Javier, directeur dynamique de l'Institut d'art dramatique de la faculté de philosophie de l'Université de Buenos Aires, celui encore d'un homme d'affaires important, Santiago Soldati, patron du groupe commercial Del Plata, spécialisé dans l'immobilier, une grosse galette. Fernando Sapsay, cet intime des quatre derniers ambassadeurs de France à Buenos Aires, juste avant de me quitter et de s'élancer dans la nuit, devient une seconde, une sorte de Georges Méliès argentin lorsqu'il me souffle « Buenos Aires, vous savez, c'est la vida es sueño », c'est-à-dire en français « la vie et rêve », l'œuvre majestueuse de Pedro Calderón de la Barca. Je me frotte les yeux quelques instants pour fixer à jamais le visage de mon hôte qui s'en est allé avec son immense culture, qu'il aime tant partager. Buenos Aires me semble soudain être au cœur du dialogue des cultures, si nécessaire pour l'équilibre de notre planète. Sur les trottoirs aujourd'hui, je me sens devenir transparent. Vous vous en souvenez, c'est nul autre que Borges qui a dit cela. L'émission sur Fernando Sapsay est terminée. La prochaine fois, je vous parlerai de la plus grande des intellectuelles argentines, Victoria Ocampo.